professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel choix rationnel opérer en cas d'incertitude pour les juristes ? Comment le pari pascalien peut-il nous faire comprendre la dimension religieuse de la gouvernance par les nombres ? Qu'est-ce que la prudence du juge ? Comment le calcul des probabilités peut-il être à la fois descriptif et normatif ? Comment passe-t-on de la prudence au calcul dans le jugement ? Pourquoi la notion de société assurantielle ? Comment Condorcet a-t-il pu penser les prémices de la globalisation et d'un droit universel ? Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, ouvre un nouveau volet du passage du gouvernement des lois à la gouvernance par les nombres et débute aujourd'hui la longue histoire de l'idée de remplacer le jugement par le calcul. Le juriste, spécialiste du droit du travail, rappelle la procédure qui permet de convertir un conflit en litige. Comment le rôle du juge consiste notamment à peser les témoignages. Alors que le juge va déployer la prudence, les pairs du calcul des probabilités cherchent à donner une estimation chiffrée de la vérité du fait rapporté. Dès lors, l'utilité l'emporte sur la connaissance. Ainsi, le calcul des probabilités sert à prescrire. C'est l'exemple des questions de santé publique avec le double caractère de la maladie, fait social quantifiable et événement singulier privé. Alain Supiot rappelle la controverse sur l'inoculation de la variole, suivie par celle au XIXe siècle qui prône la moyenne numérique défendue par les médecins hygiénistes, face à ceux qui mettent en avant l'expérience clinique, la singularité et la connaissance exacte. Les probabilités qui servent à prescrire, c'est aussi le passage du pari hasardeux sur la vie au système de prévoyance des assurances-vie. Le juriste oppose le temps long de la prévoyance, de la prudence, face au temps court de la spéculation. Alain Supiot interroge l'état social, où l'avènement d'une société assurantielle, le rapport privé-public, les buts lucratifs et non lucratifs, et il montre comment la foi dans les nombres supplante progressivement la confiance dans les personnes. Dès lors, il s'agit d'adosser les lois au calcul et de fonder un droit uniforme et universel. Condorcet critique Montesquieu dans cette perspective, tandis que l'application des calculs de probabilité aux faits sociaux ne fait pas l'unanimité. Pourtant, les usages modernes des méthodes de quantification se dessinent. Alain Supiot anticipe sur le cours suivant et nous présente les chiffres contrôle de la Chine du classement de Shanghai et ceux de l'URSS période Gosplan. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 21 mars 2013, jugé le passage de la prudence au calcul.
Au point de départ des méthodes modernes de quantification, se trouve une question qui est une question centrale pour les juristes, qui est peut-être le cœur du métier. Cette question, c'est de savoir comment agir rationnellement face à l'incertitude. Quel choix opérer en situation d'incertitude ? Cette question fait l'objet de l'art du procès, et s'il n'y avait qu'une chose à garder, à conserver dans les facultés de droit, ce serait peut-être l'enseignement de la procédure. L'objet de tout procès est en effet de faire en sorte qu'un conflit ne dégénère pas en pugilat. Le respect d'une procédure permet de convertir ce conflit en échange réglé d'arguments sous le regard d'un tiers appelé à trancher, trancher, c'est-à-dire à établir une vérité légale qui s'imposera à toutes les parties. Le rôle du juge est de peser leurs arguments sur la balance de la justice, d'établir la vérité ou la fausseté des faits qu'ils allèguent et de prendre donc une décision qui aura force normative. De ce point de vue, l'action du juge s'apparente à celle du joueur qui doit lui aussi, une fois engagé dans une partie, décider rationnellement en situation d'incertitude. Vous vous souvenez peut-être, ceux d'entre vous qui aiment à lire Rabelais, d'un de ces personnages qui est le juge Bridois, aussi appelé Bridoison, fort renommé dans sa région pour la sagesse de ses jugements. Et il advient un jour que Bridois se met à rendre de mauvaises décisions et Pantagruel l'interroge en lui disant « qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « c'est que ma vue baisse et en réalité je juge les procès en général au sort des dés. » Et le juge dit « comme est l'usage de judicature à laquelle nos droits toujours commandent de déférer. » Jeter ainsi les dés est une manière de s'en remettre au jugement de Dieu, comme le notait déjà Augustin à propos du tirage au sort. Mais le joueur expérimenté est celui qui ne s'en remet pas ainsi à Dieu et s'efforce au contraire, avant de décider de sa mise, de calculer ses chances de gains et de pertes. Et c'est à ce joueur que s'adresse le fameux pari pascalien. Faute pour lui d'avoir reçu la foi de la grâce divine, le joueur auquel s'adresse Pascal est livré à lui-même pour savoir s'il doit croire ou non en l'existence de Dieu. Dès lors qu'il est, dit Pascal, embarqué dans la vie, il ne peut échapper à cette question. Il lui faut trancher en situation d'incertitude. Et Pascal lui montre qu'il peut décider de façon rationnelle de croire ou non en ayant recours aux mêmes opérations de calcul qu'à une table de jeu, c'est-à-dire en usant de ce qu'il sait faire d'habitude dans les salles de jeu. Par son audace, puisqu'il s'agit de faire reposer la foi sur un calcul, et par sa rigueur mathématique, la démonstration de Pascal conserve une valeur séminale pour comprendre la dimension religieuse de la gouvernance par les nombres. Pascal commence par montrer que la certitude et l'incertitude ne sont pas séparées par un gouffre infranchissable, mais liées par un rapport, dit-il, de proportion des hasards. Lisons-le. « Tout joueur hasarde avec certitude pour gagner avec incertitude. Et néanmoins, il hasarde certainement le fini pour gagner incertainement le fini, sans pécher contre la raison. Il n'y a pas infinité de distance entre cette certitude de ce qu'on expose et l'incertitude du gain. Cela est faux.